question Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité, bienvenue, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, vous pourrez, comme tous les vendredis, commenter l'actualité de votre choix. C'est la libre antenne, vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité française, africaine, internationale. Je le répète toutes les semaines, mais c'est vrai, tous les sujets nous intéressent, donc n'hésitez pas, aucun sujet n'est tabou. Appelez-nous donc, soyez les bienvenus, 33 9 693 693 70. Vous pouvez également nous contacter sur les réseaux sociaux, la page Facebook officielle de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Nous allons commencer avec Eric qui nous appelle de Boaké en Côte d'Ivoire. Bonjour Eric.
Bonjour Juan.
Alors vous avez écouté RFI il y a quelques jours et vous avez des questions à nous poser sur les relations entre la Serbie et le Kosovo.
Effectivement. La semaine dernière, une rencontre de haut niveau qui devait réunir le président de la Serbie et du Kosovo a finalement été annulée. Et selon les experts, cette rencontre devait aboutir à la signature d'un accord historique entre les deux pays. Mmh. Alors, mes questions sont les suivantes. Quelles étaient les modalités de cet accord pour que les deux présidents refusent de se parler? Et quels sont les facteurs expliquant l'échec de cette rencontre?
Alors c'est vrai que cette rencontre était annoncée comme historique, elle devait permettre d'aboutir à un accord final entre les deux pays. Seulement voilà, vous le disiez Eric, le président serbe a refusé de s'asseoir à la même table que son homologue kosovar. Bonjour Jean-Arnaud Dorins.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant régional de RFI dans les Balkans. Il faut tout de même rappeler aux auditeurs que la Serbie refuse depuis 10 ans de reconnaître l'indépendance du Kosovo, mais il y a quand même un processus de normalisation des relations depuis maintenant 8 ans.
Oui, tout à fait. Alors, pour rappeler un petit peu la chronologie du Kosovo, il y a eu la guerre en 1999, l'instauration d'un protectorat des Nations Unies, et puis le Kosovo a proclamé en 2008 une indépendance qu'effectivement la Serbie ne reconnaît toujours pas. Néanmoins, 2 ans, 3 ans plus tard, pour être exact, a commencé à Bruxelles, sous l'égide de l'Union Européenne, un processus visant à la normalisation des relations entre Belgrade et Pristina. Alors, on ne parle pas de reconnaissance formelle, on essaye en théorie d'améliorer la vie quotidienne des habitants, aussi bien les Kosovars que les Serbes qui vivent toujours au Kosovo, qui sont une minorité qui est à peu près 100 000 personnes, disons. L'idée étant d'avancer sur des points concrets sans évoquer, donc, encore une fois, la solution politique. Et puis, la nouveauté, depuis le milieu de cet été, on s'est mis brusquement à parler de l'imminence d'un accord final entre le Kosovo et la Serbie, sans qu'on sache, sans qu'il ait jamais été dit de quelle nature pourrait être cet accord final. Ce n'est pas à proprement parler, je tiens à insister là-dessus, il n'est pas question d'un traité de paix, puisqu'en plus, a priori, il n'y a plus la guerre depuis près de 20 ans. Il s'agirait de normaliser définitivement les relations entre les deux pays, ce qui, en toute logique, supposerait une forme plus ou moins officielle de reconnaissance de l'indépendance par Belgrade. Alors cet accord final, cette idée d'accord final, elle est arrivée de manière un petit peu inattendue cet été, et on a beaucoup parlé de cette rencontre qui était prévue effectivement vendredi dernier à Bruxelles entre le président serbe Aleksandar Vučić et son homologue du Kosovo Hašim Tači, en disant que la rencontre devait être historique et aurait dû non pas déboucher sur un accord immédiat, mais redéfinir le cadre de négociation. Et puis de manière, je dirais, un petit peu surprenante, tout est tombé à l'eau au dernier moment. Aleksandar Vučić a pris l'avion de Belgrade pour Bruxelles, mais il a aussitôt déclaré qu'il n'entendait pas rencontrer Hašim Tači, alors pour le coup qu'il avait vu Tači une semaine plus tôt, ou 10 jours plus tôt, lors d'un sommet européen en Autriche à Alkmaar.
Alors que s'est-il passé, Jean-Arnaud de Reims? Pourquoi le président serbe a refusé de rencontrer son homologue?
Alors il y a des prétextes, je dirais, notamment Vučić devait faire a fait le week-end suivant une visite au Kosovo. Il y avait des détails sur l'organisation de la visite qui ne plaisaient pas à Belgrade, mais je crois que tout ça c'est de l'ordre du prétexte. Sur le fond, il est clair que les dirigeants des deux pays veulent engager un processus nouveau, alors pour des raisons qui sont sûrement complexes. Pour Vučić, l'enjeu c'est bien sûr l'intégration européenne de la Serbie, mais il sait très bien que cette intégration de toute manière n'est pas à l'ordre du jour de manière immédiate, donc il n'y a pas d'urgence à conclure quoi que ce soit avec le Kosovo. Du côté kosovar, c'est un peu plus important parce qu'il y a toujours au-dessus de la tête d'Hachim Saartchi, l'épée de Damoclès d'une possible inculpation par le nouveau tribunal spécial pour les crimes de guerre. Du coup, Hachim Saartchi a très envie de se poser en faiseur de paix pour essayer d'éviter la justice internationale. Donc il y a une volonté des deux hommes d'arriver sûrement à définir un nouveau cadre de dialogue, mais j'ai envie de dire que tout cela s'inscrit peut-être dans une volonté de scénariser, de dramatiser cette négociation. Ça aurait été trop facile finalement de s'entendre tout de suite dès vendredi dernier. Le processus va se poursuivre. Il y a par contre un point important, c'est que cet échec de la rencontre de Bruxelles, c'est clairement un camouflet pour l'Union européenne et la chef de sa diplomatie, Federica Mogherini.
Effectivement.
Aujourd'hui, on sait que la discussion va reprendre, c'est obligatoire, mais on ne sait pas dans quel cadre et on ne sait pas notamment si l'Union européenne jouera toujours un rôle majeur. La grande nouveauté, c'est que les États-Unis se réinvitent de plus en plus fortement dans le jeu et les États-Unis ont notamment dit qu'ils n'étaient pas hostiles à l'hypothèse de changement de frontières entre les deux pays, alors que cette hypothèse pourrait ouvrir une boîte de Pandore terrifiante pour tous les Balkans, notamment pour la Bosnie-Herzégovine, et que les Européens, jusqu'à preuve du contraire, sont très farouchement hostiles à cette hypothèse. Il y a donc, et ça c'est très nouveau, un hiatus énorme entre la position des États-Unis et celle de l'Union européenne et des principaux pays européens.
Et notamment de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne qui ont clairement exprimé leur hostilité à toute modification territoriale. Précisons tout de même que vous disiez, Jean-Arnaud de Reims, qu'il n'y a pas urgence. Faut quand même rappeler aux auditeurs que la normalisation des relations entre ces deux pays est une des conditions fixées par l'Union européenne pour que la Serbie et le Kosovo adhèrent à l'UE. Donc il y a quand même un moyen de pression de la part de Bruxelles. Merci beaucoup Jean-Arnaud d'avoir été avec nous, correspondant régional de RFI dans les Balkans. Eric, on vous souhaite une bonne journée à Boisquet en Côte d'Ivoire. On salue tous ceux qui nous écoutent sur place. Je sais que vous êtes très très nombreux. Nous y étions il y a quelques mois et vous avez été des centaines et des centaines à venir assister aux enregistrements des émissions. On repasse au standard et on va consacrer les 10 prochaines minutes à la Cour pénale internationale. Vous avez été des dizaines à nous appeler ces derniers jours après l'attaque sans précédent menée par les États-Unis contre la CPI. Rappelez-vous, en début de semaine, c'était lundi, John Bolton, le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, a menacé de sanctionner les juges et procureurs de la Cour si jamais ils décidaient de poursuivre des citoyens américains. Karine Bonneau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci de prendre le temps ce matin pour répondre à quelques-uns des nombreux auditeurs. Je rappelle que vous êtes responsable justice internationale à la Fédération internationale des droits de l'homme. On va commencer avec Arfan qui est au Sénégal. Bonjour Arfan.
Bonjour, Juan Gomez. Ça fait longtemps, là.
Ça fait longtemps. Bah, écoutez, on est là tous les matins, 8h10, temps universel. On vous écoute.
Donc, les États-Unis veulent sanctionner la CPI car cette dernière veut ouvrir une enquête sur les crimes faits en Afghanistan par les soldats américains. Mm-hmm. Pourquoi la CPI décide de poursuivre les soldats américains alors que ce pays n'a pas signé le statut de Rome?
Alors, Karine Bonneau, c'est une question qui est souvent revenue au standard. La CPI peut-elle enquêter sur des citoyens américains alors que les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de la Cour, donc ils ne sont pas membres de la CPI?
Absolument, parce que la Cour est compétente pour juger des crimes qui auraient été commis sur le territoire des États qui ont reconnu sa compétence, et ce qui est le cas de l'Afghanistan depuis 2003. Donc la Cour est compétente pour juger des crimes qui auraient été commis sur le territoire de l'Afghanistan par quelques ressortissants de quelques autres pays, et notamment des soldats américains.
Ouais, les États-Unis, eux, estiment que une telle enquête ne se justifie pas, puisque eux-mêmes, sur place, aux États-Unis, ils ont la capacité, avec leurs tribunaux, de juger des personnes pour crimes de guerre.
Ils en ont sans doute la capacité, mais ils ne l'ont jamais fait. Et c'est en ce sens que la procureure de la Cour pénale internationale a demandé au juge, le 20 novembre 2017, l'autorisation d'ouvrir une enquête sur les crimes commis en Afghanistan par des autorités afghanes, par les talibans, mais aussi par les forces armées et la CIA, justement en concluant sur la gravité des crimes qui ont été commis en Afghanistan depuis 2003 et sur l'absence totale d'enquête dans ces pays contre les principaux auteurs de ces crimes.
Ouais. Arfan, vous aviez une autre question.
Oui. Qu'est-ce qui a motivé la procureure de la CPI en voulant mener une enquête sur les soldats des États-Unis, alors qu'auparavant, personne ne le pensait?
Alors, Karine Bonneau, vous en parliez à l'instant, des crimes commis par l'armée américaine en Afghanistan, mais aussi par la CIA. De quels crimes parle-t-on exactement ?
Alors, ce sont les crimes qui ont été donc commis lors du conflit en Afghanistan. Dans son rapport de l'année dernière, elle mentionne des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, et notamment en ce qui concerne les soldats américains et les forces armées, c'est les tortures, les traitements cruels, inhumains et dégradants, et les viols et violences sexuelles contre les personnes dans les centres de détention secrets en Afghanistan, mais aussi dans d'autres États partis au statut de la CPI, sur lesquels la procureure veut aussi enquêter, et donc les crimes aussi de guerre qui auraient été commis dans les centres de détention secrets en Pologne, en Roumanie et en Estonie, en lien avec la politique des États-Unis en Afghanistan. Et ce sont des crimes que l'on connaît comme commis dans la guerre contre le terrorisme et une torture absolument systématique mise en place par le gouvernement américain.
Et notamment par George Bush qui, lui-même, il y a quelques années, dans ses mémoires, avait reconnu explicitement avoir autorisé ce qu'on appelle le supplice de la simulation de noyade, le waterboarding, qui est considéré comme une forme de torture. Peut-on imaginer, puisque le nom de George Bush revient souvent dans la bouche de nos auditeurs lorsque nous parlons de la Cour pénale internationale, peut-on imaginer que la CPI s'intéresse à l'ancien président américain ?
On peut tout imaginer, puisque la Cour elle a une compétence très vaste sur les crimes commis par les forces armées américaines, y compris donc leurs supérieurs hiérarchiques, y compris le président américain, puisque la Cour ne peut pas se voir opposer une quelconque immunité des anciens chefs d'État ou même des chefs d'État en exercice. Donc toute la hiérarchie de la CIA et des plus hautes autorités américaines qui auraient planifié justement ce plan et ces actes de torture, et il y a beaucoup d'écrits en plus qu'ils ont laissés, toutes ces personnes pourraient être inquiétées par la CPI, ce qui est aujourd'hui est le principal enjeu des critiques de Bolton et même de la politique américaine anti-CPI qui a été menée depuis la création de la Cour.
Oui, alors on parle des soldats américains, de la CIA, mais la CPI s'intéresse également aux crimes des talibans, tout comme les crimes de guerre commis par la police et les services de renseignement du régime afghan. Autre question au standard, Yabao, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bienvenue, vous êtes à Bobo-Dioulasso au Burkina, nous vous écoutons.
Quelle sera la stratégie de défense de la CPI contre les Américains ?
Alors, Karine Bonneau, la CPI a-t-elle réagi à ce discours incendiaire de John Bolton ?
Elle a tout de suite réagi en réaffirmant qu'elle était compétente et qu'elle était indépendante et qu'elle continuerait ses activités. Donc, effectivement, ce qui a attendu et ce qui a sûrement motivé aussi John Bolton à réagir ainsi, c'est la décision des juges d'autoriser l'enquête de la procureure, et cette procédure-là va continuer. Donc, la Cour a réaffirmé son indépendance. Ensuite, on ne voit pas non plus trop quelles seraient les bases juridiques des menaces que Bolton a érigées contre les juges de la CPI, ou en les menaçant de poursuites, en menaçant de geler leurs biens aux États-Unis. Donc voilà, pour l'instant, la Cour elle continue son travail comme avant.
Elle ira jusqu'au bout. Mais si toutefois l'enquête est déclenchée, Karine Bonneau, est-ce qu'elle ira vraiment jusqu'au bout cette enquête ? Autrement dit, est-ce qu'il y aura un procès ?
Alors, la Cour, elle dispose de ses propres enquêteurs et de ses propres mécanismes pour poursuivre les auteurs des crimes. Donc oui, on peut imaginer que l'enquête se poursuivra ensuite. Et ça, c'est la même chose dans toutes les situations devant la CPI. La Cour, elle a besoin de la coopération des États pour mener à bien ses enquêtes aussi, pour éventuellement arrêter des personnes qui seraient sous mandat d'arrêt. Aujourd'hui, les États-Unis ne coopèrent pas avec la Cour. Ils ne sont pas membres du statut de la CPI. Ils ne participent pas à son budget. Donc, ils n'ont pas vraiment de possibilité de représailles concrètes sur son enquête. Ensuite, s'ils passent des accords avec d'autres États pour que ces États ne coopèrent pas avec la Cour, ça sera au juge de la CPI d'apprécier la légalité de ces accords, ce qui s'est déjà fait il y a à peu près 10 ans. Oui. Mais voilà, après, la Cour aura besoin certainement d'un soutien diplomatique renforcé des États qui la soutiennent aujourd'hui.
Qui la soutiennent. Et John Bolton a été clair. Hein, les États-Unis n'hésiteront pas à sanctionner tous les pays qui accepteraient de coopérer avec la Cour pénale internationale sur ces enquêtes visant des citoyens américains. Autre question, Karine Bonneau. Elle nous est posée par Elias. Bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour, auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez d'Aplaoué. C'est au Bénin. On vous écoute.
Oui, exactement. Monsieur Wan, certains pays occidentaux membres de la CPI sont intervenus en Afghanistan. Quelle est leur réaction devant les menaces américaines?
Ah, justement, bien, Karine Bonneau.
Alors en fait, très très rapidement, hein, le jour même des menaces de Bolton, on a vu des réactions immédiates, notamment du Royaume-Uni, de la France, mais aussi plus largement de toute l'Union européenne. Le président de l'Assemblée des États parties qui regroupe les 123 États qui ont ratifié le statut de la CPI, aussi au nom de cette Assemblée-là, ont soutenu la Cour. Donc aujourd'hui, en tous les cas, dans les discours, il y a une très ferme réaffirmation par ces États du soutien de la Cour pénale internationale. Et puis, on le voit aussi, ces déclarations de Bolton et donc au travers lui de Trump, en fait, ont contribué et continue de contribuer à isoler l'administration américaine au niveau international. C'est-à-dire que ces menaces, c'est quand même un affront au droit international, à la légalité internationale, de se vouloir au-dessus des lois, justement, et de créer un système de poursuite à deux vitesses. Et ça, c'est ça qui a été aussi rejeté par les États partis. Ensuite, il faut que ce soutien-là, qui est important, qui est public aujourd'hui, soit aussi traduit concrètement par une coopération, par un budget que les États doivent continuer à augmenter pour que la Cour ait les moyens de mener ces enquêtes, qui seront difficiles.
Ouais. Il nous reste 3 minutes, Karine Bonneau. On va prendre certainement la dernière question concernant ce dossier. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes à Bamako, au Mali.
Effectivement, oui.
Nous vous écoutons.
Alors, les États-Unis viennent de menacer les juges de la CPI si toutefois elles engageaient des procédures contre Israël. Alors, malgré cette menace-là, est-ce que la CPI peut engager une procédure, n'est-ce pas, contre Israël, afin que Israël puisse s'expliquer un peu devant le monde entier sur les crimes qu'ils sont en train de commettre, n'est-ce pas, en Palestine?
Alors, Karine Bonneau, on rappelle dans le discours de John Bolton, il y a effectivement la menace, si jamais les juges de la CPI s'en prennent à des citoyens américains. Mais John Bolton a également clairement nommé Israël, en disant, si jamais vous vous en prenez à Israël, eh bien, nous n'hésiterons pas également à adopter des sanctions. Israël qui ne reconnaît pas la CPI.
Exactement, c'est encore le deux poids, deux mesures. C'est le même cas de figure, en fait, que pour l'Afghanistan, c'est-à-dire que la CPI est compétente aussi depuis l'accession de la Palestine à son statut et depuis la reconnaissance de la compétence de la Cour. Donc la CPI aujourd'hui est compétente pour poursuivre les auteurs de crimes en Palestine. Et il y a un examen en cours aujourd'hui, une procédure en cours, notamment la procureure insiste sur les crimes qui sont commis à Gaza depuis 2014 et aussi sur la politique de colonisation. Donc c'est cette politique-là, ces crimes-là, pourraient aboutir à l'ouverture d'une enquête si la procureure l'estime appropriée. Et donc, être imputable à la politique israélienne. Donc, on rappelle que la CPI, elle poursuit les auteurs physiques, c'est des personnes, c'est pas un État qui va être poursuivi. Mais oui, elle pourrait poursuivre les auteurs israéliens de ces crimes. Et c'est ce qui fait peur à Israël, qui a aussi qui mène aussi une campagne contre la CPI. C'est ce qui fait peur aux États-Unis.
Oui, d'ailleurs,
c'est un système qui leur échappe.
Et en réaction, les États-Unis ont décidé de fermer la mission palestinienne à Washington. Après que l'autorité palestinienne ait demandé à la CPI d'enquêter justement sur des crimes perpétrés par l'armée israélienne dans les territoires occupés. Merci beaucoup Karine Bonneau d'avoir pris le temps ce matin pour répondre à quelques questions reçues depuis le début de la semaine après ce discours de John Bolton. On continuera à parler des relations tumultueuses entre la CPI et les États-Unis. C'est un sujet qui vous passionne visiblement. Vous êtes nombreux. On en parlera donc dès le début de la libre antenne dans une dizaine de minutes. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Parmi les autres sujets qui semblent vous intéresser, la stratégie de l'opposition en République démocratique du Congo en vue de la présidentielle de décembre. Des réactions également sur la colère des étudiants en Côte d'Ivoire. Ils ont dénoncé cette semaine les frais annexes d'inscription. Et on parlera aussi d'un livre au Cameroun qui fait polémique, un manuel scolaire traitant de la sexualité. Voilà quelques-uns des sujets qui nous arrivent ici au Standard.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.